Soyez les bienvenus sur Inter, 7h30. Le journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, Venise sera-t-elle un jour sauvée des eaux? La Sérénissime, régulièrement noyée, s'inquiète. Un projet existe pour protéger la ville de ses marées hautes, mais qui peine à voir le jour. On vous dit tout sur ce serpent de mer avec notre correspondant sur place. Si vous avez des enfants, vous avez tous recouru à cette technique, la kiné respiratoire pour les bronchiolites de vos bébés. Eh bien, ce traitement est contre-indiqué, on vous explique pourquoi dans ce journal. Dans ce journal également, la colère des étudiants face à la précarité. Ils seront reçus aujourd'hui par le gouvernement. Une nouvelle affaire Pierre Jox, l'ancien ministre socialiste, fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle. Et puis le célèbre contre-ténor français Philippe Jarouski qui retrouve Johnny Hallyday au musée Grévin.
Et au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, je vous rappelle que c'est aujourd'hui Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement.
France Inter.
Et direction donc Venise, Sébastien, qui ne voit aucune solution à son calvaire.
Que ce serait triste, Nicolas, si Venise disparaissait un jour sous la mer. Or, cette perspective angoisse de plus en plus les Italiens. La dernière Acqua Alta, marée haute, 1,87 m, la plus importante depuis 53 ans, a fait d'importants dégâts matériels, des centaines de millions d'euros selon le maire, et une victime, un septuagénaire mort d'électrocution chez lui. Alors que faire contre ce fléau qui pourrait devenir critique avec le réchauffement climatique? Les autorités ont bien lancé un projet de digue flottante, mais pas certain que cela suffise. Le reportage Les pieds dans l'eau de notre correspondant Bruce de Galzin.
Les sirènes ont encore retenti cette nuit, mais l'eau n'a pas envahi Venise, qui pour se protéger compte depuis des années sur le projet Moïse, du nom du prophète, qui veut dire sauver des eaux. Lancé il y a 15 ans, il n'est pas terminé. Le maire de Venise, Luigi Brugnaro, veut accélérer.
Finissons-en avec ces choses que nous entendons dire depuis des années. Il y a tant de gens qui sont montés sur des podiums, qui ont organisé des congrès.
C'est un projet fantôme, dénonce le maire, qui devait coûter 2 milliards et qui en a pour l'instant coûté 7, à cause notamment de la corruption et du blanchiment d'argent de responsables politiques locaux. Vincenzo a une galerie d'art contemporain. Il vit à Venise depuis 27 ans et ne croit absolument pas au projet Moïse.
Les derniers travaux pharaoniques et inutiles comme ceux du projet Moïse, ça ne fonctionnera jamais. Pour le faire fonctionner, ça coûterait plus cher que pour le réaliser. Vraiment, tout ça n'a fait que détériorer la situation.
Et détériorer la lagune. Pour Sarah, qui étudie à l'université de Venise, les politiques ne prennent pas la mesure du changement climatique.
Heureusement, les jeunes de notre âge commencent à s'en occuper vraiment, mais ce sont les adultes et surtout les politiques qui devraient réellement commencer à prendre les choses au sérieux.
Et Giuseppe Conte, le président du Conseil, a promis hier soir à Venise que le projet serait terminé rapidement. À Venise, Bruce de Galzin, France Inter.
Ajoutons que le gouvernement italien doit décréter aujourd'hui l'état de catastrophe naturelle.
Les blouses blanches, Sébastien, promettent une journée noire.
Mobilisation maximale aujourd'hui pour demander un plan d'urgence pour l'hôpital public, aide-soignants, infirmiers, internes, médecins, chefs de service appelé à descendre dans la rue. Une union sacrée inédite. Le plus gros cortège sera à Paris à partir de 14h30 depuis Port-Royal direction les Invalides. Défilé à prévoir aussi à Marseille, Rennes ou Toulouse. Les kinésithérapeutes battront-ils le pavé? Ils ont en tout cas des raisons d'être en colère. Pour une autre raison ce matin, la Haute Autorité de Santé vient de publier une nouvelle directive qui ne recommande pas une méthode pourtant très utilisée dans leur cabinet depuis des années, la kiné respiratoire pour traiter les bronchiolites. 500 000 enfants en souffrent chaque hiver. Une affection virale qui provoque toux et sifflement, mais qui peut donc se guérir autrement. Les précisions de Daniel Messager.
A priori, le but de la kiné respiratoire est de désengorger les bronches avec une main sur le thorax, l'autre sur l'abdomen. Le kinésithérapeute, en appuyant, donne de petites tapes qui doivent provoquer la toux et permettre d'expectorer. Mais la HAS, la Haute Autorité de Santé, la juge aujourd'hui contre-indiquée, même si elle est moins pratiquée qu'il y a quelques années. Que ce soit pour les formes modérées ou sévères de bronchiolite, le docteur Christophe Marguet, chef du service de pédiatrie du CHU de Rouen, a participé aux recommandations de la HAS.
Ne doit plus y avoir d'équation bronchiolite égale kiné. La kinésithérapie en milieu hospitalier a été étudiée et n'a pas fait ses preuves. En milieu ambulatoire, les données cliniques actuellement n'existent pas. Nous n'avons absolument aucune étude et l'absence d'études oblige le groupe de travail à ne pas recommander la kinésithérapie en ville.
Pas d'indication non plus pour une prise de médicaments, que ce soit des antibiotiques, sauf en cas de surinfection. Les sirops contre la toux et les fluidifiants sont aussi contre-indiqués. En fait, fait, il faut simplement aider le bébé à respirer en lui lavant le nez plusieurs fois par jour, le surveiller et évidemment contacter le 15 s'il respire mal, le 15 qui déterminera si un déplacement aux urgences est nécessaire. L'hiver dernier, les bronchiolites avaient représenté 11% des passages aux urgences.
Daniel Messager, chef du service Société, pour plus de précisions sur cette directive des autorités de santé, rendez-vous sur franceinter.fr. Qu'ils aient eu des bronchiolites dans leur enfance ou pas, les étudiants sont pour beaucoup victimes de précarité. 20% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Le monde étudiant ébranlé ces derniers jours par l'immolation par le feu d'un jeune Lyonnais, toujours entre la vie et la mort. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, recevra donc aujourd'hui et demain les organisations étudiantes. Écoutez les revendications de la première d'entre elles, l'UNEF, et sa présidente Mélanie Luce.
On a un gouvernement qui a beaucoup parlé de précarité étudiante, qui s'est dit sensible au sujet, etc., depuis longtemps. Mais le constat qu'on fait, c'est que pour l'instant, la politique qui est mise en œuvre ne correspond pas au discours qui est tenu. Et les mesures mises en œuvre en faveur des étudiants sont largement insuffisantes, prennent du temps. Donc nous, ce qu'on revendique, c'est un plan d'urgence de refonte des aides sociales. Il y a toute la question de l'accès au logement et donc beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de revendications. Là, maintenant, nous, ce qu'on veut entendre, c'est qu'on ait un gouvernement qui passe à l'action. Ce qu'on attend, c'est effectivement qu'on arrête de parler, d'échanger uniquement, mais qu'on arrive sur des réformes concrètes qui aident réellement les étudiants. C'est pour ces raisons-là que nous, on va au rendez-vous. C'est pas uniquement pour discuter de la situation qui effectivement est tragique, mais c'est pour faire avancer les choses et que cet étudiant qui s'est immolé par le feu soit le dernier à tenter de se suicider pour des raisons de précarité.
Mélanie Luce de l'UNEF avec Faustine Calmel sur le terrain. Le campus de Bron de l'Université Lyon 2, bloqué toute la journée d'hier, a été évacué hier soir sans difficulté. Et pendant que l'hôpital et les universités grondent, Emmanuel Macron lui sera sur le terrain aujourd'hui au contact des élus locaux. Le chef de l'État assistera cet après-midi au conseil municipal d'Épernay dans la Marne. Politique encore avec deux informations. Les Républicains trancheront le 27 novembre prochain pour l'investiture au municipal à Marseille entre Martine Vassal et Bruno Gilles. Et puis Éric Ciotti, pour sa part, renonce à se présenter au municipal de Nice face à Christian Estrosi.
Il est 7h37. Pierre Joxe, Sébastien Pierre Joxe, face à de nouvelles accusations d'agression sexuelle.
L'ancien ministre âgé de 84 ans fait l'objet d'une enquête du parquet de Paris pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle. C'est l'ancienne assistante de vie de son épouse, aujourd'hui décédée, qui a porté plainte. Elle accuse l'avocat de l'avoir caressé et embrassé de force à plusieurs reprises à son domicile. Des accusations que Pierre Joxe nie catégoriquement, Jean-Philippe Dugnot.
Dans sa plainte révélée par le journal Le Monde, Rita décrit des soirées dans l'appartement de Pierre Joxe qui l'héberge afin qu'elle s'occupe de son épouse en fin de vie. Frottements, caresses, câlins et baisers forcés. Quand il veut quelque chose, il l'obtient et quand il ne l'obtient pas, il est prêt à tout, dénonce-t-elle. L'ancien ministre dément avoir eu de tels comportements. C'est un truc à dormir debout, témoigne-t-il au Monde, expliquant qu'il n'a jamais eu à exercer la moindre contrainte tout au long de sa vie sentimentale. Pierre Joxe avait déjà été la cible d'une accusation d'attouchement portée par la fille de l'ancien ministre Éric Besson. Il y a 2 ans, elle avait raconté qu'il l'avait caressée lors d'une représentation à l'Opéra en 2010, alors qu'elle était assise à côté de lui. Mais elle n'avait pas porté plainte, sachant les faits prescrits. Ces accusations seront justement examinées par le tribunal de Paris la semaine prochaine, lors d'un procès en diffamation intenté par Pierre Joxe contre Alexandra Besson. Et l'ancien ministre se demande si la plainte de l'assistante de vie n'aurait pas été déposée opportunément avant-hier pour pouvoir alimenter l'audience de lundi prochain contre lui.
Jean-Philippe Dugnot, scène de panique hier après-midi en Ardèche avec une petite réplique de 2,2 sur l'échelle de Richter qui n'a fait aucun dégât. Les dégâts en revanche du tremblement de terre de lundi se font encore sentir dans la ville de Theil, cette ville de 8500 habitants. Plus de 2000 élèves ne pourront pas reprendre les cours lundi à cause de fissures constatées dans leur établissement. Le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, était hier en visite sur place. Le reportage de Willy Moreau.
Impossible de rouvrir les établissements la semaine prochaine. Des poteaux porteurs du lycée Xavier Mallet sont fragilisés. On aperçoit même le jour à travers une fissure sur un mur. Au lycée privé Saint-André, le plafond de la cantine s'est en partie effondré.
Quel cata. Non, le plus inquiétant là, c'est vos poutres. Hein.
Face à l'ampleur des dégâts, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, promet de débloquer 2 millions d'euros.
Dès qu'on aura les premières expertises et les premiers diagnostics qui nous permettent d'enclencher, on fera les travaux. Maintenant, l'urgence, c'est de travailler ensemble ensemble avec les services de l'inspection pour assurer la possibilité pour nos enfants de poursuivre leur scolarité.
Les cours pourraient se faire dans deux autres établissements voisins, mais Naïm s'inquiète déjà pour la fin de l'année.
Parce que là, je suis en année terminale S, et du coup, pour le bac, tout ça, du coup, on devra tout rattraper à la fin de l'année. Ça va être dur, puisqu'on va prendre du retard sur le programme.
Le retard à rattraper, toute la logistique aussi à mettre en place. Stéphanie, professeure, se pose des questions sur le transport scolaire, notamment.
Toute l'organisation pour les élèves qui habitent dans les petits villages, le ramassage scolaire, aller à Montélimar, enfin, tout ça, ça va être super compliqué.
La question pourrait être réglée d'ici la fin de semaine, d'après Laurent Wauquiez. Au total, ce sont 2/3 des élèves de la maternelle au lycée qui ne pourront pas reprendre les cours lundi.
Willy Moreau de France Bleu Ardèche. Et on termine, Sébastien, 7h40 en musique avec l'entrée remarquée d'une nouvelle star au musée Grévin.
Oui, d'habitude, ce sont plutôt des stars du rock ou de la variété qui se font faire leur double de cire. Mais là, c'est un grand nom du chant lyrique. Le contre-ténor Philippe Jaroussky, dont la voix est aujourd'hui connue dans le monde entier. Stéphane Capron.
Philippe Jaroussky rejoint Mozart, la Callas, Pavarotti et des artistes vivants comme Roberto Alagna. 6 mois de travail ont été nécessaires pour créer ce double en cire lors de multiples séances qui lui ont permis d'en apprendre aussi sur lui-même.
Là, vous voyez la statue monter, mais moi, je l'ai vue désossée avec un trou dans le ventre. Très intéressant d'ailleurs parce que j'ai vu l'espace que j'avais à l'intérieur de mon corps. Et comme évidemment le corps est aussi exactement en dimension, j'ai pu voir tout l'intérieur de moi vide.
À Grévin, Philippe Jaroussky est aux côtés de Cecilia Bartoli, au milieu d'autres stars du showbiz comme Aznavour, ce qu'il n'aurait jamais imaginé au début de sa carrière.
Quand j'étais ici il y a 20 ans sur cette scène, on peut dire que j'étais un intégriste du baroque. Mais je suis convaincu qu'on peut aussi proposer peut-être quelque chose de plus épuré, de plus simple. Et effectivement, le fait de m'être ouvert petit à petit, de chanter récemment avec Mathieu Chédid, j'ai appris à apprécier une autre forme, je dirais, d'éloquence.
Et ce fameux duo avec M, enregistré lors du grand atelier de Vincent Josse sur France Inter, figure sur le triple CD qui sort pour les 20 ans de sa carrière.
Et ne te retourne pas chaque fois.
Voilà, Philippe Jaroussky au musée Grévin et qui sort aussi un triple album à l'occasion de ses 20 ans de carrière.
Merci Sébastien Legénie.